Rebonsoir, bonsoir à tous. On est ensemble et en direct jusqu'à minuit. Autour de moi ce soir, Ségolène Royal, Perico Legas, Olivier Vial et Christophe Barbier. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Notre invité ce soir, c'est Jean-Marie Villain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maire centriste de Viry-Châtillon.
Oui.
Bienvenue à vous sur ce plateau. Vous êtes avec nous puisque les obsèques du jeune Chemseddine ont eu lieu ce mardi. Chemseddine est mort à l'âge de 15 ans après avoir été passé à tabac par un groupe de jeunes à Viry-Châtillon, dans votre ville, à proximité de son collège. Il sortait à peine des cours. On sait que vous avez été bouleversé par le décès de cet adolescent. Comment vous avez vécu, vous, cette journée avec ses voisins, ses proches, sa famille, ses camarades ?
Bah, c'est compliqué. De toute façon, des obsèques, c'est toujours compliqué, que ce soit pour un ami ou pour quelqu'un de proche. Là, il y avait en plus une forte émotion parce qu'il y avait beaucoup de monde. Il y avait presque 300 ou 400 personnes qui étaient présentes à la mosquée, puis ensuite au cimetière. Donc forcément, avec, pour ma part, une découverte de la façon dont les musulmans se séparent de leurs proches. Donc c'était quelque chose d'un peu particulier, plein d'émotions effectivement aussi. Plein de bienveillance, j'ai entendu aussi, parce que j'ai pas participé, mais j'ai écouté. Et c'est vrai que les seuls messages que j'ai entendus, c'était des messages de paix, c'était des messages d'apaisement aussi. Et puis des appels à tous ces jeunes qui étaient présents. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents, beaucoup d'amis, de copains, de classe qui étaient là. Et l'appel à leur expliquer que... Curieusement, alors je devrais parler de laïcité en permanence en tant que maire, mais je dois dire que entendre des mots où on dit que être un bon musulman, c'est surtout aimer tout le monde, quel qu'il soit religieux, pas religieux, et c'était ça le discours toute l'après-midi. Et donc je dois dire que ça m'a beaucoup touché.
On a vu beaucoup d'habitants aller déposer des fleurs pendant plusieurs jours après son décès devant l'établissement dans lequel il était scolarisé. Vous avez senti que ça a été un énorme choc pour les habitants de votre commune ?
C'est toujours un choc. Moi, je suis un élu et j'essaie d'être sur le terrain le plus souvent possible. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une personne que je croise qui n'évoque l'affaire et ce drame. Et c'est vrai que les gens ça nous est un peu tombé sur la figure comme ça, sur la tête. Et on essaye de maintenant se dire comment on peut faire d'abord, parce que forcément, il faudra trouver des solutions pour éviter. Alors, c'est un vœu pieux, bien sûr, mais c'est un peu ce que tout le monde voudrait. Et puis surtout, ne pas oublier la famille, parce qu'ils vont encore déguster pendant un bon moment. Quand on est maman et qu'on perd son enfant comme ça, je sais pas comment on peut s'en remettre. Je me vois pas, moi, perdre mes enfants sans être complètement abattu. Et elle l'est. Moi, j'ai pu parler un peu avec elle au moment où, le soir du drame. Je l'ai pas eu au téléphone depuis. J'ai eu beaucoup de sa famille pour organiser en particulier ce qui va se passer vendredi. Mais c'est vrai que c'est un événement majeur pour moi.
L'enquête, en attendant, progresse. Quatre jeunes hommes ont été mis en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi. Deux d'entre eux, un majeur de 20 ans et un mineur, ont été écroués. Les deux autres, deux mineurs, ont été incarcérés provisoirement jusqu'à un débat contradictoire prévu demain devant le juge des libertés et de la détention. Trois d'entre eux étaient connus des services de la justice. C'est un soulagement pour vous qu'on les ait retrouvés.
C'est une satisfaction, en tout cas. Je sais pas si c'est un soulagement, parce que vous savez, des fous furieux, il y en a qui existent un peu partout. Donc on peut se retrouver avec un autre drame comme ça, même si c'est pas eux qui le font. C'était important aussi pour la famille. C'est important aussi pour les familles de tous ces collégiens qui sont dans ce collège qui est un bon collège avec des activités, avec des enseignants qui se multiplient par 10 pour essayer pour réussir même à donner de la vie à ce collège. Donc forcément, c'est une bonne chose. Ce qui est intéressant, c'est surtout de mesurer que quand on se donne les moyens pour mener une enquête, et moi j'ai vu le soir même, une heure à peine après l'agression, qu'il y avait déjà la police judiciaire ce qui est au départ presque un petit fait divers, même si on savait pas jusqu'où ça pouvait aller, qu'on déploie autant de moyens. Je crois que la préfète m'a appelé quasiment dans le quart d'heure. Le procureur m'a indiqué vraiment que tout était mis en place. C'est vrai que les moyens, matériels, les caméras, etc., ont pu aider. Et quatre jours après ou trois jours après, il y avait déjà des résultats. C'est quand même très satisfaisant.
Quatre personnes incarcérées à l'heure où on parle. Je voulais qu'on en vienne au mobile qui a été donné par justement ces mises en cause citées par le procureur. Visiblement, ces deux frères avaient sommé plusieurs garçons, dont la victime, de cesser leur correspondance avec leur sœur, notamment sur des sujets relatifs à la sexualité. Ils craignaient, c'est ce qu'ils racontent, pour la réputation de la sœur et celle de leur famille. Je précise d'ailleurs que l'adolescente en question, même si elle n'était pas là au moment des faits, a été mise en examen pour abstention volontaire d'empêcher un crime. Je voulais qu'on écoute à ce sujet les mots d'Éric Dupond-Moretti tout à l'heure à l'Assemblée nationale.
Nous présentons à la famille de ce jeune homme, à ses proches, à ses amis, au maire de Viry-Châtillon, au personnel scolaire, toutes nos condoléances. Condoléances attristées et puis aussi l'expression de notre révolte et de notre colère. Que les choses soient très claires, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur et en l'occurrence d'horreur absolue.
Ségolène Royal, il n'y a pas de crime d'honneur, il n'y a que des crimes d'horreur. On précise que le crime d'honneur n'est pas reconnu par la loi française.
Heureusement, il a existé d'ailleurs à un moment dans le code civil français, parce qu'on parlait de crime d'honneur pour les féminicides, quand un mari tue sa femme. Et je trouve que la formule d'Éric Dupond-Moretti est excellente, parce qu'elle remet bien les choses à leur place. Et si aujourd'hui, je pense, toute la communauté française est secouée, c'est parce que tout le monde constate, et monsieur le maire, vous l'avez dit, le Conseil national des villes d'ailleurs, qui est le rassemblement des maires, qui régulièrement observe les phénomènes de violence, la violence entre les jeunes a augmenté. Et elle a beaucoup augmenté, notamment pendant le confinement et à la sortie du confinement. Parce que beaucoup de jeunes ont vécu dans un monde virtuel, avec les jeux vidéo, avec les réseaux sociaux, avec...
Mais là, est-ce qu'on n'est pas au-delà du confinement, du Covid ?
La pornographie.
On est trois ans plus tard.
Mais je pense que ça a marqué et ce comportement, c'est-à-dire cette implication sur les réseaux sociaux a continué après le confinement. Mais les heures ont été mesurées, les heures pendant lesquelles les jeunes ont passé sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo d'extrême violence, où il y a à la fois la violence verbale, la violence physique, et ce sont des mondes virtuels, parce que dans les jeux vidéo, il y a des morts, mais les morts ressuscitent, ils se relèvent à un moment, et donc cette violence plus...
Vu qu'ils n'ont pas conscience des conséquences de leurs actes.
Je pense qu'ils n'ont pas, ils n'ont beaucoup moins conscience ce qui n'excuse absolument rien, et c'est pour ça qu'il faut revenir à des solutions qui sont d'ailleurs réclamées par les maires, c'est la police de proximité, la présence de la police à la sortie des établissements scolaires, la remise en place des coopérations des personnes adultes référentes, c'est-à-dire que l'autorité aille toujours dans la même direction, qu'on cesse de voir les parents contester les décisions de l'école réciproquement.
Responsabiliser les parents, ça fait partie des pistes qu'a soulevé Gabriel Attal.
Et notons que beaucoup de pères sont absents aussi. Beaucoup de pères sont absents et que les femmes seules sont confrontées à l'éducation des adolescents et ça, c'est très difficile.
Alors, beaucoup
donc,
de réactions
trouver vraiment des solutions.
Autour de la table, d'abord Perico Légas.
Au-delà de tout ce que vient de dire Ségolène Royal, qui est évident, on ne meurt pas en France aujourd'hui à l'âge de 15 ans pour un problème de correspondance entre un garçon et une fille. Si on meurt en République française aujourd'hui pour ça, c'est que la République française n'est pas la République française, que la classe politique n'a pas fait depuis longtemps ce qu'elle avait à faire, et qu'il y a des gens qui se croient aujourd'hui l'autorisation de tuer un gamin de 15 ans parce qu'il parle à ma sœur. On se croyait dans une bande dessinée. C'est pas une bande dessinée, c'est pas une caricature, il n'y avait pas d'atteinte à la pudeur, il n'y a pas eu de comportement incorrect. Non, mais je dis, là on est en train de décrypter. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, vous rendez compte le message qu'on envoie à la société ? Oui. On vient en commando de punition, on tue un gamin parce qu'on vient pour tuer, et on dit « Ah oui, mais il avait envoyé des textos sur la sexualité ».
Mais parce que ça existe, et effectivement, c'est pas qu'un fait divers, aujourd'hui c'est un fait de société, et le crime d'honneur, faut pas se voiler la classe, c'est aujourd'hui quelque chose qui est aussi lié. Alors effectivement, vous avez entendu des discours apaisants à la mosquée, c'est très bien, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui est issu d'une culture qui vient plutôt du Moyen-Orient.
Olivier, je veux pas l'entendre parler.
Oui,
je suis en République française.
Oui, mais
on est en train d'expliquer
que ça existe.
Ah, mais je te
ça
dis,
existe.
Et non, donc mais ça ne devrait pas exister. Le garde des Sceaux, ce qu'il devrait dire, c'est qu'il y a un accident institutionnel dans la République française. Il va être corrigé.
tout de suite. Et alors, on va pas l'empêcher.
Et dans les 15 derniers jours, on a vu d'autres exemples.
Si ces gens-là sont passés à l'acte, c'est qu'ils savaient qu'ils pouvaient le faire.
Là, malheureusement, il y a eu un mort, mais la fille qui a été agressée il y a quelque temps parce qu'elle était habillée à l'occidental, c'est de la même chose.
Vous parlez donc, de cette collégienne à Montpellier, c'est sa mère qui dit qu'elle a été
religieux ou patriarcal.
Alors attendez, laissez Olivier Vial finir peut-être.
S'immisce et provoque la mort.
Non, mais c'est effectivement aujourd'hui, il faut pas se voiler la face. On a effectivement là-dessus un vrai problème parce que il y a une volonté d'imposer au nom de la réputation, au nom d'une vision extrêmement restrictive de la sexualité, de la vie sentimentale des jeunes filles. On a une vraie volonté et c'est pas de n'importe qui. Donc il faut regarder les choses en face. Oui, et c'est pas simplement les jeux vidéo. Je pense qu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui ont une vision extrêmement radicale de l'islam et qui essayent d'imposer cette vision-là contre même les imams, mais c'est eux qui tiennent le quartier. Donc dans les quartiers, on a les deux. On a des gens qui effectivement aujourd'hui sont victimes de ça, et puis on en a une petite minorité, mais qui n'est pas isolée, qui sont en train de faire vivre une véritable loi dure, radicale, violente dans les quartiers.
Un cauchemar.
Oui, aujourd'hui on a ce problème avec un islamisme radical qui essaye d'imposer sa loi contre les lois de la République. West Side Story, c'était pas l'islam. Roméo et Juliette, c'était pas l'islam. Les Vendetta Corse, c'est pas l'islam. Donc beaucoup de cultures ont tenté d'engendrer comme cela une oppression de la femme, des femmes, au nom évidemment de ce qui est appelé l'honneur. Aujourd'hui, le problème sociologique que l'on a, il est dans cette direction-là. Évidemment, pour lutter contre cela, pour lutter contre les conséquences, restaurer l'autorité, redéployer la police de proximité, mieux articuler le monde de l'éducation et le monde de la police, c'est pas toujours un dialogue facile, mais je crois qu'il faut aller plus profondément. C'est par l'éducation, c'est par le triomphe de l'école qu'on arrivera à faire de la génération qui monte, de la génération qui est à l'école, une génération vaccinée.
Mais donc concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que les professeurs doivent avoir le droit d'enseigner toutes les valeurs républicaines et de substituer aux valeurs qui ne sont pas républicaines et qui viendraient de traditions familiales, claniques, ethniques ou religieuses, de substituer à ces valeurs-là les valeurs de la République.
Ceux qui ont essayé l'ont payé de leur vie pour l'instant.
Oui, bien sûr, c'est
pas le chemin qu'on prend.
Et c'était vrai aussi au 18e, au 19e siècle, c'était une autre religion.
Amélie Châtillon, on n'est pas à New York dans les années 50, on n'est pas en Corse, on n'est pas dans un autre pays d'Afrique, on est à Amélie Châtillon au cœur de la République.
C'est la même équation, mais les termes sont différents.
Et je comprends que l'élu de la République, qui est le maire, voit un problème de civilisation dans sa commune.
Mais
je comprends son effondrement.
Mais la République a montré sa force dans de nombreuses circonstances. Ne partons pas
souvent
du principe que cette bataille est perdue.
Souvent
très tard, c'est vrai. La République a tendance à se réveiller quand elle est mise en danger. Elle n'est pas dans l'action, elle est plus dans la réaction. C'est comme ça. Mais elle y arrive. Elle y arrive par la patience éducative,
au bout d'un certain nombre de crimes
répressifs
et d'un certain nombre de
pour
tragédies.
Pour l'instant,
il n'y a pas de prévention. On soigne.
Pour l'instant, on a Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation, qui se dit favorable à expérimenter l'interdiction du téléphone portable dès l'entrée dans l'enceinte des établissements, et donc pour empêcher aussi toutes ces rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et qui sont souvent à l'origine de tout ça. Vous vous dites en gros, ça sert à rien.
Je dis simplement qu'à 17h, il y aura le même problème qui se posera.
Donc ça ne sert pas à grand chose. Et Gabriel
au niveau des réseaux sociaux qu'on doit agir parce qu'ils sont un accélérateur de machines à mener des expéditions punitives.
Gabriel Attal qui dit qu'il faut agir dès l'école primaire, il souhaite prendre des mesures fortes. Pour l'instant, on n'en sait pas encore grand-chose. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? C'est quoi la solution selon vous?
Alors d'abord, il n'y a pas une solution, parce que si vraiment il y en avait une, je pense qu'il y a bien quelqu'un d'intelligent qui l'aurait trouvé depuis bien longtemps. Donc c'est certainement un ensemble de choses. Moi, je pense également qu'il faut surtout pas baisser les bras, parce que d'abord, à chaque fois qu'on baisse les bras devant ce type de barbarie, ça veut dire qu'on déclare forfait, qu'on se dit non, finalement c'est eux qui vont gagner. Donc il est question par principe, je dirais, de ne pas baisser les bras. Par contre, il faut aussi impérativement, j'entends les enseignants, il leur faut des moyens, c'est pas possible, par exemple, qu'un collégien qui entre en classe n'ait pas son prof en face de lui pendant une semaine, 15 jours, 3 mois. Ça peut arriver, c'est pas normal, parce que ça veut dire qu'il y aura un manque, quelle que soit la matière, c'est important. C'est de la même façon, c'est important en primaire qu'effectivement il y ait aussi cette capacité à punir, parce que cette notion de la punition qu'on considère comme étant le diable en personne, non, la punition c'est aussi une façon de montrer qu'il y a des interdits. C'est pas très grave de se faire punir. Ça peut-être porter à faire réfléchir. J'explique assez fréquemment que je fais des rappels à la loi pour les primo bêtises, on va dire. Pas non, pas des délinquants, c'est même des, pour les ceux qui font leur première bêtise. Ça permet de rencontrer des parents en plus, parce que je le fais avec les parents, avec un commissaire de police. Ça donne un peu de grandeur à ce qu'on fait, un peu de solennité à ce qu'on fait.
Là, Gabriel Attal parle de mettre en place des conseils disciplinaires extrêmement tôt.
C'est important aussi. C'est l'une des solutions. Il faut aussi que les parents soient aidés. Et pas que financièrement. Les parents, on doit leur apprendre à apprendre. Parce que on ne naît pas parent. En tout cas, tout le monde ne naît pas parent. Et donc, parfois, les parents ont besoin qu'on les aide, justement. Vous savez, quand je fais ces rappels à la loi, une fois sur deux, il y a la maman, comme vous le disiez, qui est démunie et qui me dit, allez-y, c'est à vous. Moi, j'y arrive plus parce qu'il fait 2 mètres de haut et je peux plus le dominer. Il faut que vous m'aidiez. Il faut que vous m'aidiez, parce qu'elle est seule, parce qu'elle a deux travails, parce qu'elle est obligée de se battre toute la journée.
Un dernier élément sur la marche blanche qui aura lieu vendredi, c'est ça ?
C'est
comment
ça
va se dérouler ?
J'espère bien, en tout cas, ça va démarrer à 14h aux alentours, à 14h, 14h30, devant la MJC, et on se dirigera du coup, non pas vers le collège, parce que la situation est un peu compliquée en géographiquement, en tout cas en termes de place, donc on ira sur un stade qui est tout proche, de façon à ce que ça soit le plus large possible, parce que ce qu'il faut, c'est aussi qu'on apporte le soutien fort à la famille.